Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Philippe Diribarne qui vient de faire paraître au Seuil Les immigrés de la République, un ouvrage d'une centaine de pages pour 17 euros. Monsieur Diribarne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Heureux de vous accueillir sur notre antenne. Alors, votre thème est celui d'une réflexion sur les difficultés actuelles de l'intégration des immigrés en termes de culture,
oui.
Et dans lequel vous critiquez en quelque sorte l'idée du républicanisme français, mais que vous considérez pourtant qu'il est le seul capable de résoudre les problèmes d'intégration. Alors, nous allons revenir sur ce sujet. Bien entendu, ce thème a fait couler beaucoup d'encre, au point d'ailleurs de constituer un quasi casus belli entre différents courants de pensée. Et vous nous direz, vous, de quel côté vous vous positionnez, ou en tout cas, comment vous distribuez les lauriers. Bon. Alors, rapidement, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler quelques éléments de votre parcours. Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes un auteur très confirmé, puisque vous avez fait paraître un certain nombre d'ouvrages qui ont été très bien accueillis par, aussi bien par les spécialistes que par le grand public, et notamment « La logique de l'honneur » au Seuil en 1989, « Penser la diversité du monde » au Seuil en 2008 aussi, et « L'épreuve des différences » en 2009. Alors, première question, pourquoi ce sujet à ce moment-là ?
Eh bien, parce qu'au fond, pendant longtemps, l'intégration, sinon des immigrés, en tout cas de leurs descendants, de leurs enfants, petits-enfants, ne posait pas de problème. Et au fond, tout d'un coup, en France et dans l'ensemble des sociétés européennes, on a l'impression, disons, qu'il y a une difficulté qui se manifeste par un certain nombre de symptômes très clairs, à la fois des taux de chômage très supérieurs à niveau de formation égal, des taux de délinquance également, et on s'interroge pourquoi. Et on voit sur les pouvoirs publics essaient de mener une action, vous avez vu la création de la HALDE, l'idée d'ouvrir à la diversité l'ensemble aussi bien des médias, de la classe politique, etc., et que tout ça se fait, disons, non sans difficulté, avec en plus, donc on l'a vu, vous l'évoquiez à propos du débat sur l'identité française, au fond une espèce de radicalisation des positions où donc, le gouvernement a voulu lier les questions d'immigration et d'identité et ceci a fait scandale. On a eu une réaction extrêmement vive en disant « il est innommable », enfin des termes très forts ont été utilisés.
Inacceptable.
Inacceptable. Et puis même indécent, enfin des termes relevant de la pureté, si vous voulez, pas simplement en disant des choses morales, de le faire. Alors au fond, la question est de dire pourquoi, à la fois c'est difficile, et puis pourquoi, au fond, les Français sont tellement peu d'accord entre eux, mais aussi en eux-mêmes, si vous voulez, en eux-mêmes. Parce qu'au fond, on voit que cette question, celle de l'immigration, remet, en quelque sorte, ravive, disons, un vieux débat, une vieille question, si vous voulez, française, bon, qui date de plusieurs siècles. La Révolution française, au fond, a voulu créer une nouvelle manière de vivre ensemble, comme une société de citoyens régie par le droit et dans laquelle tout citoyen serait l'égal de tout citoyen, aurait les mêmes droits, etc. Et donc, dans cette vision qui est une vision politique, que l'on soit immigré, pas immigré, descendant de n'importe quoi, cela n'a strictement aucune importance, on est dans les mêmes droits. Bon. Et simultanément, ce qu'on pourrait appeler le corps social, c'est-à-dire, disons, tout un chacun d'entre nous, quand il choisit un logement, met ses enfants dans une école, embauche s'il est chef d'entreprise, choisit des locataires s'il est propriétaire, etc., va être au contraire extrêmement sensible à tout ce qui caractérise chacun, je dirais, dans son être vraiment personnel, incarné dans ses spécificités, ce qu'il est, bien sûr, quelles études il a fait, d'où il vient, quelle est sa famille, de quel milieu social il appartient.
Son style de vie, sa religion, etc.
Tout ça, voilà. Et alors là-dessus, si vous voulez, la société française, au fond, est particulièrement ardente, je dirais, à faire des distinguos subtils. Tout le monde sait que tel joueur de football est basque, que tel coureur cycliste est breton, que tel homme politique a
et
sa
auvergnat.
Famille... Oui, mais auvergnat, c'était, disons, polémique. Mais le fait de dire que, je sais pas, que Bernard Hinault est breton, vraiment, ne fait pas polémique. Tout le monde trouve que c'est normal, disons, de dire ça, ou de dire que Nicolas Sarkozy a des parents hongrois. Tout le monde trouve ça normal, disant personne n'est choqué. Ou moi-même, dire que je suis basque, on me rappelle régulièrement que je suis basque, ça fait partie, disons, des évidences, des choses auxquelles il est normal de s'intéresser. Là où vient la difficulté, c'est que ce à quoi incite, disons, le strict principe de non-discrimination auquel incite, disons, une vision politique, et font toutes les subtilités auxquelles incite une vision sociale, ne sont pas faciles toujours à concilier. Il y a une très bonne illustration de ça, que je cite, qui est un travail de Pierre Bourdieu dans La misère du monde. Pierre Bourdieu est lui-même, je crois, un homme plutôt ouvert à la diversité, si vous voulez, ouvert à la diversité, et décrit ces situations de militants politiques extrêmement convaincus de l'ouverture, internationalistes, défenseurs des immigrés, etc., mais qui, dans leur vie personnelle, trouvaient extrêmement difficile de vivre dans un contexte urbain dans lequel ils avaient le sentiment de perdre leurs repères, qu'ils n'étaient plus chez eux, etc., et dont même certains, finalement, étaient amenés à déménager la mort dans l'âme, avec le sentiment de renier toutes leurs convictions. Donc, je crois qu'en la matière, si vous voulez, on a chez les Français, au fond, une double sincérité. Une vraie sincérité quand il s'agit de dire que l'on est dans un corps donc politique composé de citoyens qui ne veut vraiment ne pas savoir, ne pas faire de distinction, ne pas faire de différence entre eux. Et puis chacun est en même temps élément d'un corps social, voilà, qui gère sa vie en étant extrêmement attentif à tout cela.
Je vous lis d'ailleurs à page 54, je crois que c'est à peu près dans ce chapitre que vous soulignez cet aspect. De nos jours, les vertus du compromis, donc républicain français, a perdu son évidence. L'universalisme de la raison est concurrencé par un universalisme multiculturel. De ce fait, la visée de l'universel portée par le corps politique devient incompatible avec la fidélité à un héritage spécifiquement français. Dès lors, le corps social tend à rester seul porteur d'une référence à cet héritage et en s'opposant au corps politique. La relative complicité entre corps politique et corps social se trouve rompue.
Tout à fait. Alors effectivement, disons pendant longtemps, et c'est vrai qu'on a assez ri quand on apprenait à tout le monde, nos ancêtres les Gaulois, voilà, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu, au fond, un sentiment qui me semble exister jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel, au fond, la France était tellement porteuse d'universel dans sa spécificité. On disait que, je sais pas, toute personne amoureuse de la liberté a deux pays, son pays et la France, etc.
Ça, c'était Jefferson qui disait ça.
Oui, ouais. que donc, faire rentrer et transformer les personnes qui venaient d'ailleurs en des, disons, vrais petits Français, pas seulement politiquement, mais sociologiquement, hein, l'apprenant, je sais pas, on trouvait normal de prendre un prénom français, on s'appellerait Pierre et pas Pietro, on s'appellerait Louis et pas Luigi, etc. Donc on rentrait dans quelque chose de très très français. Ça apparaissait même, si vous voulez, les ouvrir sur quelque chose qui relevait de l'universel, de la raison, dont la France était supposée être un héros, disons, particulièrement remarquable. Et alors, c'est vrai que, disons, avec les évolutions liées à la Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation, etc., bien cette espèce d'adéquation, si vous voulez, entre le français sociologique et le français droit de l'homme, humaniste, etc., c'est en quelque sorte rompu. Alors, donc, ça...
Et les immigrés sont prisonniers de cette scission.
Alors, les immigrés, si vous voulez, je dirais qu'à des tas d'égards, on leur raconte des histoires, parce qu'à la fois, on leur dit, le discours est largement officiel, et de leur dire, ben voilà, vous êtes des citoyens comme les autres, et donc vous avez les mêmes droits, et nous allons vous protéger, vous allez être traités comme n'importe qui, etc. Et en même temps, ils ont le sentiment, comme disent certains, on est des Français de papier. Alors, ça veut dire on est des Français de papier. Ça veut dire qu'effectivement, on a des papiers français. Et donc, dans la sphère politique, si on veut voter, on ira voter. On a parfaitement le droit de vote. Et on sera traité, effectivement, comme tout, n'importe quel Français dans le bureau de vote. Mais quand il va s'agir de la vie quotidienne, du monde, du travail, du logement, etc., alors à ce moment-là, on va vous demander des tas de choses, et disons tout un chacun, l'employeur, votre voisin, etc., va vous demander des tas de choses que, officiellement, on n'a pas à vous demander. Alors c'est vrai que là, on est dans une contradiction, si vous voulez, dans laquelle les politiques, finalement, là-dedans, sont dans une espèce de louvoiement, parce qu'à la fois, ils sont les gardiens de l'ordre républicain et donc tenus d'agir conformément aux stricts principes républicains d'égalité, etc. Et en même temps, ils ont à gérer le quotidien du corps social et donc, et puis avec la crainte du développement des mouvements populistes, etc., enfin, qu'on voit dans d'autres pays. Et donc, ils louvoient entre les deux, en tout cas, dès qu'ils sont au pouvoir. Dans l'opposition, ils peuvent avoir un discours plus carré, mais au pouvoir, ils louvoient.
D'accord. Et c'est cette dichotomie qui, selon vous, sans doute, explique peut-être cette montée du communautarisme ou pas ?
Bien, si vous voulez, la montée du communautarisme est liée au fait qu'effectivement, il est normal, il est tout à fait normal, hein, que des gens qui se sentent quelque peu rejetés par le corps social tendent à retrouver des gens avec lesquels ils se sentent bien, qu'ils les acceptent, etc. Disons que ce serait même étonnant qu'ils s'y prennent autrement. Et je dirais que le communautarisme, en quelque sorte, va s'expliquer par les réactions du corps social. Mais en même temps, c'est là qu'on est dans quelque chose de grave, c'est que ce communautarisme est à la fois engendré par les réactions du corps social, mais renforce en même temps les réactions du corps social. C'est avec le fait que, c'est vrai que dès que dans un quartier, si vous voulez, un certain contrôle social va être exercé par un groupe qui va être plutôt un groupe de gens issus de l'immigration, eh bien, on voit ceux qui n'appartiennent pas à ce groupe, et en particulier des Français plus traditionnels, vont émigrer, en quelque sorte, à l'intérieur de la phase, enfin, vont quitter. Si vous voulez. Et on arrive à une situation dans laquelle, effectivement, dans certaines communes, par exemple du 93, de la Seine-Saint-Denis, on a des villes dans lesquelles plus des trois quarts des jeunes sont issus de l'immigration et d'une immigration récente.
Alors vous dites que dans votre conclusion, c'est ce que vous rappelez, les difficultés qu'a la société française à accorder une place digne de ce nom à ceux de ses membres qui sont issus de l'immigration sont un puissant révélateur de ces contradictions. La société française est donc confrontée à des contradictions et ces contradictions débouchent sur l'interrogation que vous portez sur la capacité d'une société d'être radicalement multiculturelle. Et ça, c'est une vraie interrogation, alors.
Oui, c'est-à-dire qu'on a imaginé, effectivement, développer des sociétés multiculturelles. Alors, il existe dans le monde des sociétés multiculturelles. L'ancien empire turc était un exemple remarquable de société multiculturelle. L'Inde, même contemporaine, a certains idées multiculturelles. Les États-Unis, à leur manière, sont des sociétés multiculturelles. Mais il faut voir que ces sociétés multiculturelles payent leur ouverture à la diversité de quand même pas mal de ségrégation, d'une part, et pas mal d'inégalités. Enfin, chaque communauté, finalement, tend à, je dirais, à se replier un peu égoïstement sur elle-même. Et que, bon, les sociétés qui, traditionnellement, étaient plutôt solidaires et plutôt égalitaires, étaient des sociétés peu multiculturelles. Le Japon, l'Europe du Nord, etc. Et donc, on a une bonne étude de cas, en quelque sorte, dans les sociétés d'Europe du Nord, qui, au fond, ont tenté de combiner leurs principes traditionnels de égalitaire, refusant la ségrégation, etc., avec l'existence d'une société multiculturelle et le respect de la différence culturelle. Et on voit bien que ça ne me paraît pas par hasard que ce sont justement ces sociétés qui sont actuellement marquées par une montée d'un populisme xénophobe qui est quand même très impressionnant, qu'il s'agisse des Pays-Bas, de la Suède, du Danemark.
L'Allemagne en partie aussi.
Et maintenant de l'Allemagne. Voilà. Les propos récents d'Angela Merkel, si vous voulez, au fond, Angela Merkel est la première, je dirais, premier personnage politique réputé sérieux, enfin pas extrémiste du tout, c'est qu'elle n'a pas cette réputation, à prendre clairement position contre les sociétés multiculturelles. Et quand on voit, il y a eu des sondages, par exemple, faits récemment en Allemagne, sur la perception des étrangers, la perception de l'islam, etc., on a vraiment des résultats qui sont très impressionnants.
Alors, un autre auteur a récemment, stressé l'opinion et les politiques, que vous connaissez d'ailleurs, qui d'ailleurs a fait paraître un livre lui aussi chez Le Seuil, c'est Hugues Lagrange, qui lui avait pour thèse de faire un lien, on va dire, entre culture, immigration et délinquance. Alors, ce n'est pas exactement le cœur de vos travaux, mais vous avez un avis, j'imagine.
Tout à fait. Hugues Lagrange, c'est tout à fait situé dans une perspective, je dirais, du corps social. Il a fait un travail sociologique, et un sociologique dans lequel il a analysé sociologiquement certaines villes de banlieue, en particulier la région de Mantes, et il a fait des observations, au fond, qui, à certains égards, conforte la vision qu'a le corps social de l'immigration. Mais en même temps, en rentrant dans cette vision du corps social, il s'est mis tout à fait en porte-à-faux par rapport à la vision du corps politique. Et donc, les critiques qui ont pris le point de vue pur et dur du corps politique en disant « mais c'est scandaleux ». Et effectivement, du point de vue, si on se place du point de vue disons, de l'orthodoxie républicaine, ces critiques ont raison de dire « vous n'avez pas, même pas le droit de regarder cela, vous n'avez pas le droit de vous poser ces questions-là, même les questions que vous posez sont scandaleuses ». Et alors que si on se place du point de vue sociologique et du corps social, il est normal d'étudier ces questions-là. Et si vous voulez, la façon dont son livre a été reçu est extrêmement révélateur, si vous voulez, de cette extrême difficulté à concilier deux regards sur la société et en particulier sur l'immigration.
Alors, quelques questions un petit peu à l'emporte-pièce. Premièrement, cette nouvelle idée d'égalité réelle qui a des racines marxistes, vous en pensez quoi ?
Alors, l'égalité. Justement, l'égalité, disons, républicaine, c'est une égalité devant la loi. Bien que l'idée d'égalité réelle, chez Marx, c'est de dire que l'égalité devant la loi ne suffit pas et qu'au fond, finalement, la loi, si tout le monde sont égaux devant la loi, le fort va en profiter et le fort va en profiter pour écraser le faible. L'égalité réelle, c'est de dire qu'il faut compenser les différences et avoir des politiques de, disons, qu'on appelle en anglais affirmative action, donc de politique de discrimination positive, comme on dit, qui pose un problème elle aussi, si vous voulez, parce que rentrer dans ces politiques, ça veut dire aussi qu'on, et c'est pour ça, disons, que beaucoup de gens les critiquent quand même, qu'on met un label à un certain nombre de gens. On les labellise, au fond, on les labellise immigrés, on les labellise, maghrébins, africains, etc. Alors, ce qui est tout à fait contraire, si vous voulez, à la tradition républicaine française, dans laquelle, au fond, on considère qu'on est vraiment citoyen français, et donc que c'est à l'intérieur, disons, d'une action qui peut être une action dans laquelle on va avoir des politiques sociales, donc dirigées vers ceux qui sont dans des zones socialement en difficulté, que l'on va faire évoluer la société, mais dans lequel utiliser des critères de distinction qui ne sont pas des critères sociaux, mais des critères ethniques, etc., est quelque chose quand même de très choquant. Et on comprend, si vous voulez, parce que rentrer là-dedans, c'est aussi rentrer un peu dans une mécanique, c'est entretenir cette mécanique infernale, si vous voulez, de la séparation et du rejet.
Oui. Alors, au niveau des flux maintenant, est-ce que vous croyez qu'une gestion, ce sont des mots un petit peu bruts, mais par les flux d'entrée, soit une solution pour calmer les choses, ou est-ce que de toute façon, ça ne change pas la nature du problème ?
La gestion des flux, là, c'est carrément vraiment pas mon domaine de compétence.
Ouais, mais enfin, ça a quand même un lien.
Là-dessus, alors le lien, c'est quelque chose qui est beaucoup dit, hein, dire si on veut favoriser l'intégration des immigrés,
il faut qu'il y en ait moins,
et en tout cas d'arrêter leur renouvellement, avec en particulier, disons, quelque chose qui est souvent souligné, c'est que la transformation du monde, le développement, la facilité des communications, etc., fait que actuellement, certaines, disons, communautés d'immigrés, justement, Lagrange a étudié ça à propos des gens venus du Sahel, non seulement restent en contact permanent avec leur pays d'origine, mais passent leur temps, disons, les jeunes vont se marier dans le pays d'origine. Et donc, à travers le regroupement familial, etc., on entretient finalement une espèce d'insertion privilégiée dans les racines, etc., qui font que l'intégration sociologique et pas seulement politique, disons, dans la société française, devient problématique. Mais alors, en même temps, si vous voulez remettre ça en cause, pose aussi quand même des problèmes par rapport à toute une conception quand même auquel nous sommes attachés, des droits de l'homme, des libertés, etc. Et là, vraiment, on est dans des choses extrêmement difficiles à résoudre, je crois qu'il faut le dire. On a des impératifs contradictoires, on est amené à faire des cotes mal taillées. Alors, je crois que la question qui me paraît se poser pour les pouvoirs publics, c'est, au fond, est-ce que le rôle des pouvoirs publics, et au fond, ça a été un peu la position, disons, de la Halle de première manière, c'est de Schweitzer, et de dire, nous nous situons dans la pureté de la référence républicaine. Et nous allons reformater l'ensemble de la société pour qu'elle obéissent en quelque sorte à cette référence, au fond, avec une politique un peu comme l'a été, je dirais, pour prendre une image, la prohibition aux États-Unis, disons, dans les années 30. Ou alors, est-ce qu'au contraire, les pouvoirs publics doivent se dire « je suis un agent de l'évolution des cotes mal taillées, des compromis entre la vision républicaine et le corps social ». ce qui était apparemment le point de vue de la deuxième responsable de la Halle, de Jeannette Boulrabe, avant qu'elle ne quitte l'institution. Et avec du reste, le cas intéressant, où à propos d'une affaire de voile islamique, les deux présidents successifs de la Halle ont adopté des positions rigoureusement opposées. Donc, on comprend à la fois que les pouvoirs publics veuillent dire, quand même, en tant que gardien des principes républicains, au fond, nous n'avons pas trop à connaître au fond, toutes les résistances du corps social. Et donc, le corps social sait du reste suffisamment se défendre par lui-même pour que l'on le prenne en compte. Ou au contraire, de dire, finalement, ces compromis implicites qui se font entre une vision républicaine et le corps social sont quand même pas très satisfaisants, il faut le dire. Mais alors, disons, mais alors là, à ce moment-là, les pouvoirs publics acceptent beaucoup plus de se salir les mains, si vous voulez, enfin, finalement, d'être assez réaliste sur les limites de leur action. Alors, ce qui ne peut que susciter à la fois, disons, l'approbation des uns, mais quand même une vive censure, et disons qu'on l'a vu, si vous voulez, dans cette affaire, celui autour de l'identité française. Par exemple, je me rappelle une déclaration qui a été faite par un ensemble d'anciens premiers ministres, Laurent Fabius et d'autres, et puis de responsables politiques, Martine Aubry, d'intellectuels, d'artistes, etc., enfin, qui ont dit qu'il s'agissait de quelque chose, oui, je me rappelle, de nauséabond, enfin, vraiment, d'absolument, on n'avait pas le droit de mettre la main là-dedans. Et j'avoue que c'est pour moi-même, bon, vous me demandiez ma position, alors, en tant que chercheur, etc., m'intéressant aux complexités du monde, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que le rôle du politique, comme disait Max Weber, hein, est d'être dans une morale de responsabilité et pas seulement dans une morale de conviction. Hein, donc il a à gérer le monde tel qu'il est avec ses pesanteurs. Mais je comprends très bien, c'est que d'autres, au fond, veuillent se dire « Non, non, restons dans quelque chose de plus radical, avec l'espoir qu'à la longue, le corps social finira bien par se transformer. » Alors, quand on voit que depuis, au fond, la Révolution française, au fond, quand même toutes les tentatives pour reformater le corps social, quand même un effet relativement limité, hors de la sphère politique. Ça a conduit à une transformation, on a supprimé le suffrage censitaire, l'ensemble de la population, les femmes, ensuite, en 1944, ont eu le droit de vote. Donc il y a eu... Mais on n'a pas eu vraiment un reformatage du corps social dans le monde du travail, dans le monde de l'école, dans le monde du logement. Je doute un peu qu'on y arrive.
Donc je ressens qu'à travers votre propos, tout est affaire de réglage très fin et non pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Comment faire alors, si vous aviez un dernier message à donner en synthèse de votre ouvrage, pour que les immigrés de la République restent peut-être des immigrés, mais dans la République?
Je pense qu'il y a un certain nombre de choses, disons quand même. Je dirais d'abord ne pas leur mentir. Le problème, c'est qu'ils se sentent trompés. On leur dit des choses, on fait le contraire, ce qui me paraît franchement pas correct. Et puis, il y a un autre aspect, je crois, qu'on peut faire, c'est que la société française est terriblement opaque. Elle est terriblement exigeante vis-à-vis de tout le monde, hein, pas seulement, disons, vis-à-vis des immigrés, mais, disons, dans le domaine social, dans le domaine... etc. Mais elle n'explicite pas ses exigences. Finalement, elle rejette sans dire. Je crois que faut donner un cahier des charges plus clair sur, au fond, à quelles conditions, réellement, on ne va pas être seulement français de papier, mais vraiment français sociologiquement aussi, je crois serait quand même un grand progrès.
Donc les immigrés ne doivent pas être des Français de papier. Et donc, c'était vos explications. Je veux simplement, pour terminer, en vous remerciant, lire quelques lignes de votre conclusion qui, je crois, donnera l'appétit à nos auditeurs. Une société pleinement ouverte à la diversité des cultures n'a pas plus de chances d'avenir qu'une société qui serait réellement sans classe. L'approximation déjà lointaine qu'en offre la société multiculturelle à l'anglo-saxonne paye chèrement le prix de sa tolérance à la diversité. Par contraste, la tradition française qui veut que tous se mêlent et soient solidaires sans souci de leurs origines au sein d'un espace public marqué par une laïcité exigeante mérite d'être défendue. Mais en fin de compte, la liberté qu'elle offre n'est-elle pas plus profonde que celle que proposent les règnes conjugués du communautarisme et du marché? Voilà. Alors j'invite nos auditeurs à se procurer ce livre qui vient de paraître donc au Seuil de Philippe Diribarne, Les immigrés de la République, 130 pages, je crois, pour 17 euros. C'était donc les réflexions et les convictions de Philippe Diribarne. Merci à vous.
Merci.